Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous à l'écoute de ce bulletin d'informations. Au sommaire, aujourd'hui, sur le site du journal Foreign Policy, Bohuslav Sobotka démontre plus d'engagement des Européens au sein de l'OTAN. Le ministère de l'Intérieur envisage d'interdire les machines à sous dans les bars. Et à Brno, la découverte du plus ancien usage du plâtre en Europe centrale. Le Premier ministre Bohuslav Sobotka a publié un article sur le site du journal anglophone Foreign Policy, la politique étrangère, dans lequel il appelle à un plus grand engagement des Européens au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La liberté a un prix et nous devons tous être prêts à porter notre part de la responsabilité, c'est ce qu'a écrit Bohuslav Sobotka. Il a également rappelé qu'à partir de 2015, la République tchèque augmentera le budget alloué à la défense à 1,4% de son PIB. En vertu de la loi sur l'emploi, toute entreprise et institution publique ayant plus de 25 salariés doit consacrer 4% de ses postes aux personnes souffrant d'un handicap ou bien acheter leurs services ou les produits qu'elles ont fabriqués. Selon les statistiques recueillies par le Conseil national des personnes handicapées, aucun ministère ne respecte cette obligation. Par exemple, au ministère de l'Environnement, au lieu de 21 postes, ces personnes avec un handicap occupent seulement 3. Si en 2007, les ministères ont payé 40 000 euros en amende pour le non-respect de la loi sur l'emploi, en 2013, cette somme avoisine 690 000 euros. Les villes interdisant ou limitant les maisons de jeux sont de plus en plus nombreuses en République tchèque. Dans ce même sens va le projet d'amendement législatif que prépare le ministère de l'Intérieur pour ce mois d'octobre. Selon les informations révélées par le quotidien Hospodářské noviny, le nouveau texte interdit les machines à sous dans les brasseries, des bars et des restaurants. La République tchèque s'inspirait ainsi de la Pologne ou de la France où ce régime est déjà en vigueur. Cette entreprise figure désormais sur la liste noire constituée par le Bureau de la protection de la concurrence. Toute firme sur cette liste a l'interdiction pendant 3 ans de se porter candidate aux appels d'offres publics. Une entreprise basée à Havlíčkův Brod, qui se trouve à la frontière entre la Bohême et la Moravie, figure depuis peu sur cette liste car elle s'est servi des qualifications professionnelles d'une autre personne pour un appel d'offres public et n'a pas su expliquer son erreur. Selon certains avocats, la liste noire du Bureau de la protection de la concurrence reste peu utilisée et a encore du potentiel pour servir dans la lutte contre la corruption. Le plus ancien usage du plâtre en Europe centrale remonte à la préhistoire. C'est ce que l'ont découvert les chercheurs de l'université Masaryk à Brno. En étudiant les technologies et la tradition de la poterie en Moravie, les archéologues et les géologues ont détecté la présence du plâtre sur un calice fabriqué il y a 4500 ans. Si en Europe centrale, il s'agit de l'usage du plâtre le plus ancien, au Proche-Orient, il remonte au néolithique précéramique datant de 8600 à 5400 ans avant Jésus-Christ. Et nous terminons sur un mot de météo. Pour ce mercredi, jour de fête des Bernards en République tchèque, les météorologues promettent des différences régionales notables. En Bohême, le ciel est partiellement couvert avec quelques rayons de soleil, avec la température qui oscille entre 19 et 22 degrés. En revanche, en Moravie, les nuages sont lourds et couvrent l'ensemble du territoire avec des températures un peu plus basses qui ne dépassent pas les 20 degrés pour les maximales. Et sur cela, Lucie Drexelová vous remercie d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme. C'est tout de suite avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Lucie pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Les sanctions économiques et commerciales prises récemment par l'Union européenne et la Russie inquiètent en République tchèque. Un gouvernement tchèque qui a fait de la Russie un pays prioritaire pour ses exportations. Un groupe de travail a donc été constitué pour trouver des solutions et minimiser les conséquences de ces sanctions sur l'économie tchèque. Plus de détails dans quelques instants. On retrouvera ensuite notre série estivale, série consacrée aux marques et produits tchèques dont la réputation a dépassé les frontières du pays. Aujourd'hui, ce n'est toutefois ni d'une marque ni d'un produit dont il sera question, mais d'un sport. Si vous êtes curieux, restez donc bien à l'écoute, tout comme de la seconde moitié du programme dans laquelle nous entendrons un entretien avec l'un des auteurs d'un nouveau guide touristique de Prague un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un guide consacré à l'histoire de la communauté gay du 14e au 20e siècle dans la capitale. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. L'envoi de diplomates spécialisés dans les affaires agricoles dans certains pays et la mise en place d'un Kurzarbeit à l'échelle locale, telles sont les deux principales mesures qui pourraient être prises prochainement en République tchèque pour minimiser les pertes subies par les entreprises suite aux sanctions réciproques adoptées par l'Union européenne et la Russie en raison de l'attitude de cette dernière dans le conflit ukrainien. Lundi, un groupe de travail était réuni au siège du gouvernement pour se pencher sur la question des conséquences de cette crise commerciale entre Bruxelles et Moscou. La semaine dernière, c'est le ministre de l'Agriculture qui avait appelé toutes les administrations publiques du pays à acheter et à manger tchèque pour faire face aux complications générées par l'embargo d'un an décidé par la Russie sur les denrées alimentaires occidentales. Cette fois encore, l'agriculture est restée au cœur des préoccupations, comme l'a confirmé Tomáš Prouza, qui est le secrétaire d'État aux affaires européennes et le chef du groupe de travail mis récemment sur pied. On l'écoute.
À l'heure actuelle, nous vous envisageons d'envoyer 5 diplomates agricoles à Moscou, Kiev, Riyad, Pékin et Belgrade. Leur mission serait d'aider les agriculteurs et les producteurs spécialisés dans l'industrie agroalimentaire tchèque à pénétrer sur les marchés de ces pays en les aidant au niveau législatif et en leur trouvant des opportunités commerciales intéressantes.
La décision d'envoyer des attachés spécialisés dans les affaires agricoles en Russie, en Ukraine, en Arabie Saoudite, en Chine et en Serbie, 5 pays considérés comme prioritaires, ne remonte pas cependant à ce lundi et avait déjà été annoncée au début de l'été. Ces attachés disposeront du statut de diplomate et rempliront leurs fonctions dans les ambassades. Actuellement, plus de 90% des exportations agricoles de la République tchèque sont destinées aux pays membres de l'Union européenne. Si l'intérêt de diversifier les destinations dans des pays tiers est évident, celui du choix de la Russie et dans une moindre mesure de l'Ukraine l'est nettement moins dans le contexte politique actuel. Tomáš Prouza a d'ailleurs admis que les discussions allaient se poursuivre et que Moscou et Kiev pourraient être remplacés par d'autres destinations. À plus court terme, le gouvernement pourrait également se servir des mécanismes européens d'aide. Lundi, la Commission européenne a annoncé le déblocage de quelque 125 millions d'euros pour soutenir le secteur maraîcher. À Prague, on estime à un peu plus de 10 millions d'euros le montant du manque à gagner, conséquence des restrictions imposées par la Russie dans le secteur agroalimentaire, les producteurs de lait étant les plus touchés. Mais l'agriculture n'est pas le seul domaine qui inquiète un gouvernement tchèque, dont la diplomatie économique a fait de la Russie, au même titre que de l'Ukraine, un de ses 12 pays prioritaires pour le développement des exportations entre 2012 et 2020. Tomáš Prouza précise à ce sujet.
L'application des sanctions ne signifiera pas nécessairement une crise générale pour l'ensemble de notre économie, mais il est évident que certaines sociétés en souffriront plus que d'autres, et la première priorité du gouvernement est de protéger l'emploi et d'empêcher les licenciements. C'est pourquoi nous voulons aider les entreprises pour lesquelles le marché russe est très important. Par exemple, certaines entreprises sont spécialisées dans la fabrication d'un produit bien précis et sont étroitement liées à certaines entreprises russes. Pour elles, trouver d'autres débouchés peut être compliqué et n'est pas l'affaire d'un mois ou deux.
Concrètement, le groupe de travail a donc conseillé au gouvernement d'accélérer les travaux menés sur ce qui est appelé le Kurzarbeit. Pas nouveau, ce système existe déjà et a été présenté pour la première fois en septembre 2012. Les entreprises tchèques confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent formuler des demandes d'aide financière auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. L'argent attribué est ensuite destiné à la formation des employés et au versement de leur salaire. Le projet a été surnommé « Kurzarbeit à la Tchèque » en référence aux mesures de chômage partiel appliquées en Allemagne voisine à partir de 2009. Désignées sous le terme de « Kurzarbeit », ces mesures avaient permis de réduire le temps de travail des employés allemands afin d'éviter les suppressions d'emplois. Officiellement baptisé « Formez-vous pour la stabilité », le projet tchèque compte dans sa première phase, qui s'achèvera fin 2015, sur un budget de 14,5 millions d'euros en provenance des fonds européens. Toutefois, les entreprises y ont rarement recours, les démarches étant trop compliquées selon elles. Vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, Radio Prague vous propose cette année une série estivale consacrée à des marques et des produits de la République tchèque dont la réputation dépasse les frontières du pays. De l'antivirus Avast au tracteur Zetor en passant par le Semtex, la Pervitine ou le Klenik, la sélection n'est donc pas exhaustive, elle n'en est pas moins variée, comme le prouve le numéro de ce jour qui est cette fois consacré à un sport, le tennis ballon ou comme on dit en tchèque le norejbal, un sujet d'Alexis Rosenzweig.
Ce sera aujourd'hui vraisemblablement le seul épisode sportif de cette série avec le norejbal, un sport inventé à Prague et pratiqué aujourd'hui sur plusieurs continents. Les historiens font remonter les débuts du norejbal à l'année 1922 et des juniors du Slavia Prague qui se sont amusés à faire des échanges avec un ballon de foot au-dessus de bancs d'abord, puis d'une corde et enfin au-dessus d'un filet. Noha en tchèque veut dire jambe, mais le ballon peut être joué avec toutes les autres parties du corps, sauf avec les mains, comme en football. Le nom vient donc de Noha et aussi de volleyball, car les règles ressemblent à celles du volleyball, comme nous l'avait expliqué un ancien champion du monde tchèque, David Perutka.
Simplement, c'est comme un volleyball, mais on joue avec les pieds. Mais évidemment, le filet est beaucoup plus bas qu'en volleyball. On joue ensemble, donc on joue double et triple, dont le système est quasiment pareil, sauf le ballon peut tomber, toucher la terre.
Le norejbal est connu sous différents noms dans le monde, tennis ballon, footnet et même soccer tennis chez les Canadiens, qui ont organisé les derniers championnats du monde à Montréal l'année dernière.
Les images sont absolument hallucinantes. C'est du soccer-tennis. Christian Prévost est avec nous justement pour en discuter. Qu'est-ce qui se passe avec le soccer-tennis qui va officiellement faire son arrivée, ma foi, à Montréal?
La compétition à Montréal avait été remportée chez les femmes par la République tchèque et chez les hommes par les Slovaques, devant les Tchèques par 2 points d'écart au dernier set. Tout ça pour dire que les Tchécoslovaques dominent encore leur sujet, mais la concurrence s'enhardit. L'Union internationale de footnet, l'UNIF, a été fondée en 2010 à Genève et a son siège en France, à Marseille. Depuis quelques semaines, avec l'adhésion de la Hongrie, du Canada et de la Corée du Sud, elle compte 18 membres, dont le Costa Rica, la Tunisie, le Mali, le Cameroun et l'Australie. La dernière réunion de l'UNIF s'est déroulée en mai dernier à Modřice, près de Brno, où était organisée la Coupe du Monde des clubs, remportée, je vous le donne en mille, par Modřice. Les Tchèques ont battu les Slovaques de Košice en finale après avoir éliminé les Coréens du Sechin Buffalo en demi. Les Coréens sont de fervents adeptes de ce sport, connu chez eux sous le nom de Yokku.
Možná to o mne ani nevíte, ale tenhle sport prostě miluju.
Dans une publicité pour l'un des sponsors de l'équipe olympique tchèque, c'est Petra Kvitova en personne, la championne de tennis, qui vantait les mérites de ce sport. Un sport qui restera peut-être dans l'histoire comme le seul inventé dans son pays. Et si certains dénigrent le norejbal et disent qu'il est prisé par les Tchèques parce qu'on peut y jouer avec une bière à la main, eh bien c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas encore vu de match de haut niveau, avec des postures et des coups de pied proches du taekwondo à s'en arracher les adducteurs. D'ailleurs, quand nous l'avions rencontré, David Perutka avait quelques ennuis de ce côté-là.
Il faut être plus technique que les footballeurs. Et en plus, il faut avoir la flexibilité. Donc, il faut avoir, comme un gymnaste,
la souplesse.
C'est nécessaire. Parce que souvent, les joueurs de football ne sont pas souples du tout. dont on voit quelquefois les scissors,
les ciseaux
en foot, et on voit que c'est spectaculaire, mais il y a des attaques dans des tennis ballons que les joueurs de tennis ballon font les scissors sans tomber. Donc ça demande beaucoup, d'être beaucoup plus souple que les joueurs de football.
Et on les voit, alors il faut savoir lever la jambe, c'est ce dont vous parliez, à une hauteur assez impressionnante. Et il va falloir faire attention aux adducteurs.
Ouais, il faut faire attention. J'ai quelques soucis. C'est la raison pour laquelle je joue plus maintenant. Mais il faut faire attention. Mais il n'y a pas. Il faut faire yoga, il faut faire un petit peu de stretching. Chaque fois on joue, donc il faut faire attention.
La prochaine compétition internationale de No Handball se joue ce samedi à Vsetin en Moravie, avant un autre tournoi Interligue à Salanta en Roumanie le 13 septembre.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la seconde moitié de ce programme, une seconde moitié dans laquelle on retrouve comme souvent le mardi la rubrique Panorama. Un nouveau guide touristique de Prague vient de paraître au moment de la 4e édition de la Prague Pride. L'ouvrage retrace l'histoire de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle dans la capitale tchèque du 14e au 20e siècle. Intitulé Queer Prague en anglais, Tepla Praha en tchèque, ce guide est basé sur une recherche menée pendant plusieurs années par un groupe de 4 auteurs, parmi eux Jan Seidel, avec lequel Lucie Draxelova a évoqué le contenu de cette publication.
Panorama.
Panorama.
C'est un guide touristique qui montre à ses lecteurs et lectrices une centaine d'endroits à Prague qui sont liés d'une façon ou d'une autre à l'histoire de la vie de la communauté gay et lesbienne de Prague, portant sur un espace chronologique assez vaste, je dirais. L'entrée qui est liée à l'événement le plus ancien est liée à l'an 1380. Et de l'autre côté, nous avons décidé de limiter cet intervalle chronologique par l'an 2000.
Pourriez-vous parler de ces deux moments ?
En 1380, nous disposons de ces temps, de la première source écrite. Cette source historique relate pour la première fois des rumeurs à Prague disant qu'un homme entretient des relations charnelles, le péché de Sodome, selon les termes de l'époque, avec un autre homme. Cette source est un compte rendu d'une visitation entreprise par un prêtre de l'archevêché de Prague dans toutes les paroisses de Prague où il s'intéressait à l'état des mœurs des paroissiens de Prague. Donc, dans le cas de la paroisse de Saint-Léonard à la vieille ville, il a constaté que apparemment il y a un sodomite. Donc voilà, c'est pour nous commençons par l'an 1380 dans notre guide. Et l'an 2000, nous avons choisi cette date assez arbitrairement parce que après 1989, au fur et à mesure, les endroits où les gays et les lesbiennes pouvaient se rencontrer ont commencé à se multiplier très vite pour garder donc une certaine représentativité de choix de cette époque. Après la Révolution, nous avons décidé de finir en l'an 2000.
C'est aussi un guide pour des touristes. Donc, est-ce que vous observez peut-être vous personnellement une tendance à la popularisation de ce sujet, ouais, ou de tourisme gay?
Oui, je pense que notre publication s'inscrit dans cette logique. Il y a beaucoup de touristes gays et lesbiens qui viennent de l'étranger pour visiter Prague. On peut les rencontrer très très nombreux dans des boîtes de nuit gays à Prague, aussi sur les réseaux sociaux. On en rencontre beaucoup qui se trouvent à Prague.
Mais la publication, elle n'est pas uniquement pour eux, je veux dire. À qui vous vous adressez?
À quiconque qui soit intéressé dans notre sujet. Mais je pense que les touristes gays et lesbiens vont former une grande partie de notre public. Mais bien sûr, chacun peut y trouver de l'intérêt.
Est-ce qu'on pourrait parler plus précisément encore du contenu du livre? Alors, vous avez expliqué comment elle est organisée, que c'est chronologique, et qu'il y a toujours donc, une date précise et des lieux. Est-ce que vous pourriez expliquer votre démarche? Est-ce que vous êtes allé dans les archives? Est-ce que vous avez lu la source primaire, secondaire? Comment ça se fait? Et puis aussi, est-ce que vous pouvez donner un autre exemple, je ne sais pas, dans n'importe quel siècle, mais qui vous plaît, vous, personnellement?
D'accord. Donc, le livre est organisé plutôt selon les quartiers. Chaque quartier bénéficie d'un chapitre particulier, précédé d'une petite carte d'orientation où les points sont indiqués qui forment un circuit du quartier. Et donc, chaque de ces points renvoie à une entrée qui est donc liée à un endroit ou à une personnalité, une histoire, etc. Pour ce qui est notre procédé, donc il faut dire que dans les dernières années, il est paru 3 publications, disons, académiques concernant l'histoire de l'homosexualité, auxquelles et mes collègues et moi, nous avons participé. Et ces publications, ces 3 publications précédentes, puisent bien sûr des sources d'archives, des sources issues de l'histoire orale, etc. Ce guide touristique est une, je dirais, version popularisatrice de ce savoir que nous avons accumulé ou gagné pendant plus de 10 ans déjà. Donc il y a aussi des informations puisées des archives de vieux journaux, des narrations des narrateurs, c'est-à-dire des personnes âgées, des gays et lesbiennes qui ont vécu la vie de cette communauté à Prague dans des décennies passées.
Parce qu'il y a des exemples qui ne sont pas tristes, que ce n'est pas genre un rapport de police ou un rapport d'un prêtre qui parle de sodomie, mais quelque chose qui serait par exemple drôle.
Oui. Oui, en fait, pris dans son ensemble, je pense que ce livre donne une image assez variée de cette histoire queer de Prague. C'est un mélange du tragique, du comique aussi, du banal, et je dirais aussi de l'héroïque dont plusieurs personnalités ont témoigné. Si j'ai à choisir quelques entrées particulières, je mentionnerai pour la période d'entre les guerres, le restaurant Batex qui s'est situé rue Revolutchny. C'était un espace souterrain assez grand qui a abrité pendant plusieurs années de grands bals homosexuels, parfois accompagnés d'un concours du plus beau masque. On a quelques photographies des vainqueurs de ces concours. Cet espace de Batex a été aussi assez souvent visité à l'époque par des étrangers, par des homosexuels étrangers qui sont arrivés à Prague pour la voir. Donc là, c'était plutôt un endroit de gaieté, non pas un endroit lié à des persécutions policières, à des arrestations, etc.
C'était l'entre-deux-guerres. Mmh. Qu'est-ce que signifiait la révolution de velours, par exemple, pour cette vie de la communauté des gays et lesbiennes à Prague?
Elle signifie beaucoup, bien sûr, de même que pour la République en son intégralité. D'abord, un vrai mouvement émancipateur a pu tout d'un coup s'organiser. Ce qui est intéressant, c'est de noter que juste après 1989, ce mouvement a été largement inspiré par le Front homosexuel d'action révolutionnaire, c'est-à-dire le mouvement français animé par Guy Hockenheim et ses collègues au début des années 70. Plus tard, cette inspiration française a été un peu réduite. Mais bien sûr, aussi la révolution de velours a rendu possible l'établissement de beaucoup de restaurants, bars, cafés, boîtes de nuit qui accueillaient des gays et des lesbiennes. Il faut dire que même avant la révolution, il y en avait eu quelques-uns, mais ils étaient au nombre de deux ou trois, je dirais, à Prague. Ils avaient fonctionné sous le regard de la police. Il n'était pas assez facile d'être admis à l'intérieur parce que à l'entrée, il y avait une personne qui choisissait qui pouvait entrer et qui non. Et donc après la révolution, du coup, c'était une démocratisation, je dirais, de cette infrastructure de la vie quotidienne de cette communauté. Et aussi, ce qui est important, c'est un tournement de l'approche médiatique vis-à-vis de l'homosexualité. Une ou deux années avant la révolution déjà, des journaux ont commencé à publier quelques articles mentionnant les homosexuels dans des connotations au moins un peu positives. Bien sûr, c'était selon après la révolution que le changement de l'approche des médias a pu intervenir dans une mesure importante.
Et depuis quand est-ce qu'on pourrait dire donc la fin des années 80 plus ou moins, ou beaucoup plus avant, que c'était plus un sujet tabou?
Je pense que le sujet a cessé d'être tabou en Tchécoslovaquie déjà au moment de la révolution de velours. Mais ce qui était important, ou bien ce qui restait, c'était que ce non-tabou soit utilisé dans des connotations positives, je dirais. Et là, je pense qu'il faut distinguer entre ce qui est véhiculé par les médias et ce que la société pense en tant que telle. Je ne veux pas inventer une borne, mais je pense que...
Que l'évolution du regard de société était plus progressive.
Plus lente que celle du point de vue des médias.
Merci beaucoup.
De rien, merci pour l'invitation.
Voilà, c'est donc avec Jan Seidel qui était interrogé par Lucie Drexelova. Jan Seidel qui est un des auteurs du nouveau guide touristique consacré à l'histoire de la communauté gay du 14e au 20e siècle à Prague. Que s'achève ce bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention. Merci également de votre fidélité. Et à très bientôt, de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy.